Radio Classique.
En ce début de 21e siècle, l'influence américaine est sur le point de refluer dans de nombreux États. Les observateurs appellent ces États les BRICS. Ça ne veut pas dire pour autant que cette influence ne soit pas à son apogée. L'impérialisme culturel américain avec son symbole, la boisson Coca-Cola et son agent principal, la machine à rêve d'Hollywood, règne sur l'imaginaire mondial. Et s'il fallait désigner une figure marquante de ce triomphe de l'Amérique sur les esprits, je pense qu'elle s'imposerait d'elle-même. C'est Walt Disney, comme disent les Américains. Nous l'appelons de ce côté-ci de l'Atlantique Walt Disney. Les chiffres parlent. 6 parcs de loisirs à travers le monde qui font le plein, qui fonctionnent à plein régime. Chaque année, 100 millions de visiteurs payants. C'est de loin la première entreprise de divertissement de la planète. Et si l'on en croit cette postérité, cher Gérald, on ne pouvait rêver mieux pour commencer cette 4e saison de Grand Leader que de parler de Walt Disney.
Ben on commence en fanfare, en voilà. Fait. Hein, on commence en fanfare avec un homme exceptionnel. On l'appelait aussi l'oncle Walt. Mm-hmm. Et c'est un personnage en lui-même, un magicien qui va apporter énormément non seulement à l'Amérique mais au monde en faisant rêver grand et petit. Et puis on va voir dans cet épisode un autre personnage tout à fait exceptionnel, et ce personnage c'est Orson Welles. Alors c'est la rencontre aussi de deux génies qui vont se croiser plutôt que se rencontrer. Bon, ça aurait pu donner quelque chose d'exceptionnel, on va en discuter.
Grand Leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Kersenti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. whoz.com.
Les souris Mickey et Minnie, les canards Donald et Daisy, le chien Goofy qu'on appelle Pluto en français, sont devenus des icônes planétaires de la culture de masse. À partir de quelques grands films d'animation dans les années 30, 40, 50, 60 même encore, des films qui ont valu à Walt Disney quelques 22 Oscars à Hollywood, vous imaginez ça, il a réussi à faire éclore cet univers décliné alors dans des supports infinis. La gloire du très célèbre dessinateur à moustache est telle qu'elle n'a cessé d'alimenter toutes sortes de rumeurs, de légendes à son sujet. Alors on dit qu'il serait descendant d'un des sorciers de Salem, puisque sa mère comptait le révérend George Burroughs parmi ses ancêtres. En fait, rien n'est moins sûr. On dit qu'il aurait reçu une rafale de balles dans le corps pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'il n'a jamais été blessé. On dit que son corps a été cryogénisé, qu'il repose en dessous de l'attraction Pirate des Caraïbes dans le premier parc Disney. En fait, il a été incinéré, hein, Walt Disney. On dit qu'il était franc-maçon et qu'il avait dessiné la tenue de Mickey à partir du tablier maçonnique. Rien de absolument faux. On dit aussi que Walt Disney était antisémite, voire même sympathisant nazi, et nous y reviendrons sur cet aspect-là tout à l'heure, bien entendu. C'est né pendant une grève, la grève des studios en 1941, et il a pris des positions à ce moment-là qui l'ont catalogué ou qui l'ont fait cataloguer. Bref. Tordons le cou aux rumeurs, venons-en aux informations avérées. Le nom Disney est une déformation du vieux nom français Disney, parce qu'il faut savoir qu'un des compagnons de Guillaume le Conquérant pendant la conquête de l'Angleterre était Jean-Christophe Disney, et que ces Disney ont fait souche en Angleterre, qui sont devenus les Disney donc, et que Disney ont émigré au XVIIe siècle en Irlande, et puis au début du XIXe siècle, quelques-uns d'entre eux sont partis carrément pour le Nouveau Monde, se sont installés à New York. C'est le fils de celui qui est allé s'installer à New York, Keppel, qui a rêvé de Far West, qui est allé s'installer en Californie en 1878 avec ses deux fils Elias et Walt. Alors, ce n'est pas notre Walt, puisque Walt est justement le fils d'Elias. En 1906, nouvelle implantation dans une ferme du Missouri. Tout ça est très dur, hein. Ce sont des années d'une grande dureté pour les Pour Walt Disney et pour son frère, ils sont les victimes d'un père non seulement brutal, mais probablement sadique, ivrogne, bien entendu, de surcroît. Ils essaient de se sauver comme ils peuvent, et la grande distraction pour le jeune Walt, c'est le cinéma. Bien sûr, de façon clandestine, sans payer son billet, il arrive à entrer dans un certain nombre de salles où il admire son idole absolue, qui est Charlie Chaplin à l'époque. Et c'est par amour de Charlot, si je puis dire, que Disney va s'intéresser à la question du cinéma. Mais il y est venu d'une autre façon. Il y est venu par la publicité, en faisant d'abord des films d'animation publicitaires. C'est dans ce cadre-là qu'il va créer son petit personnage de Mortimer, hein, Mortimer Mouse. C'est sa femme qui va lui dire « Oh, Mortimer, c'est pas bien comme nom. Tu devrais lui trouver un nom plus mignon. Pourquoi pas Mickey ?» Et voilà comment est né Mickey Mouse, personnage récurrent des Silly Symphonies, des Alice Comedies, personnage qui va s'entourer bientôt de Minnie, Donald, Pluto, Clarabelle et les autres, en attendant que Walt Disney se consacre à de plus grands films et notamment à un long métrage d'animation qui va faire basculer non seulement sa carrière, mais on peut le dire d'une certaine manière, l'imaginaire collectif occidental. C'est le film Blanche-Neige en 1937 qui évidemment transforme tout, puisque ça devient, alors là, on peut dire un art. On peut dire du dessin animé qu'il est devenu un art grâce au Blanche-Neige de Walt Disney, qui obtient bien sûr l'Oscar dès la première année. Et ensuite, ce seront Fantasia, Dumbo, Bambi, La Belle au Bois Dormant, Peter Pan, La Belle et le Clochard, Alice au Pays des Merveilles et Pinocchio et Mary Poppins, etc. Avant que Walt Disney étant mort lui-même, on ne vienne à la rescousse, et que d'autres dessinateurs, d'autres créateurs, sous l'étiquette, sous l'égide, sous la marque Disney, ne créent d'autres machines à fantasmes, d'autres féeries et rêveries.
Alors si on parle de Walt Disney en tant que leader, et si on le compare à une œuvre d'art, il était une œuvre d'art d'une certaine façon, on parlerait d'un triptyque. En réalité, l'un des panneaux représenterait son côté visionnaire, parce que c'était un visionnaire absolument évident. Le second, son immense créativité. Et le troisième, son profil d'entrepreneur. Quand on parle de leadership, l'entrepreneuriat en tant que tel est très important. Alors c'est difficile de ne pas voir en lui un leader par excellence, un génie du divertissement en réalité. Un soir, devant toutes ses équipes, il interprète à lui seul tous les personnages de Blanche-Neige et les Sept Nains. C'est une improvisation totale où il se met en scène, il n'a qu'un seul but, entraîner tout le monde dans le projet, parce qu'il forcément, comme tu l'as dit, c'est le premier long métrage, il y a des doutes. Alors c'est évidemment ce que font les leaders quand ils veulent entraîner les autres. Le résultat est immédiat, il suscite un véritable engouement dans toute l'équipe, il incarne littéralement ses créations et possède cette capacité innée qu'ont les leaders d'inspirer les autres et de les entraîner. Alors Walt Disney s'est forgé au fil du temps une image, comme je le disais tout à l'heure, celle de l'oncle Walt. Alors, l'oncle Walt, c'est le voilà, et c'est le personnage auquel il aurait aimé lui-même ressembler, disait-il. Donc, il se sentait avoir une certaine distance avec lui.
C'est intéressant, ça, en matière de leadership. Ça veut dire que on peut, d'une certaine façon, se créer un modèle artificiel dont on se rapproche. C'est ça l'idée.
C'est un peu ça. C'est-à-dire que il sait que cet oncle Walt, c'est celui qui fait rêver l'Amérique et bien au-delà. Et lui-même disait d'ailleurs, il n'y a pas de secret, tous les enfants du monde aiment la même chose, rire. Et il va évidemment s'évertuer à tout faire pour que les enfants rient. Alors, mais on ne devient pas l'homme qu'il fut en étant un ange d'une certaine façon. Alors, il ne l'était pas. Il était exigeant, autoritaire,
un peu maniaque même,
colérique,
sans doute,
Alors, très maniaque, mais parfois à la limite de la brutalité. On a certaines scènes qui le disent. Un des animateurs, les animateurs, c'est ceux qui travaillaient autour de Walt Disney, disait, il était un génie, je le cite, il était un génie. Si vous étiez de son côté, tout allait bien. Si vous le cherchiez, c'était un parfait salaud. Alors, ça dit tout. Il avait une rancune tenace, il ne pardonnait jamais. Il avait besoin de tout superviser. Alors ça aussi, c'est intéressant. En termes de management, il avait besoin de tout contrôler. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un micro-manager. Alors, un redoutable homme d'affaires par ailleurs, très déterminé, malgré les défis financiers qui n'ont pas manqué, surtout au début, et les critiques qui se sont un peu abattues sur lui, surtout quand il s'est lancé dans des projets comme Blanche-Neige et les Sept Nains, ben il poursuivait avec persévérance, il ne lâchait pas, comme on dit, et il prenait des risques. Alors pour certains, c'est aussi un utopiste qui décrit un monde, un conte de fées qui est totalement décalé de la réalité. Je voudrais citer, tu citais tout à l'heure Blanche-Neige et les Sept Nains qui a été très important, Mary Poppins est un film qui 64. A été très important. Voilà, absolument. Et l'Amérique qui accueille ce film a totalement changé. C'est pas l'Amérique de Blanche-Neige et les Sept Nains. C'est une Amérique qui acclame les Beatles. C'est une Amérique qui acclame James Brown, Bob Dylan, la guerre fait rage au Vietnam. Et puis, il faut aussi citer toutes les émeutes relatives aux droits civiques, avec Martin Luther King, bien sûr. Les fissures apparaissent et le fossé commence à se creuser entre ce que Walt Disney propose et la réalité de la vie. Alors, il apparaît à tous comme un conservateur très traditionnaliste, les femmes et les hommes de couleur sont quasiment absents de ses œuvres, de ses films et de ses dessins animés. On lui reproche bien souvent de faire preuve de sexisme.
Ils se sont bien rattrapés depuis Disney, hein, puisque c'est devenu la première entreprise wokiste de la planète maintenant.
Ça a totalement changé en réalité. Alors lui se voyait, et tu le citais tout à l'heure, en chef de famille, le père de tous les salariés Disney. Et puis il y a eu cette fameuse grève, je pense qu'on en reparlera plus tard, qui va le surprendre lui-même par sa violence et par le fait que ceux qui l'entouraient et qu'il pensait lui être totalement dévoué, se sont révélés pour certains assez coriaces et assez difficiles. Bref, les leaders ont toujours deux facettes, on l'a déjà dit plusieurs fois, Walt Disney n'échappait pas à la règle en étant quand même tout à fait exceptionnel.
Oui, exceptionnel par l'espèce de magie, c'est peut-être le mot, tu en parleras tout à l'heure, hein, de cette magie extraordinaire qu'il a su créer et que tous les enfants, anciens enfants, j'allais dire, qui nous écoutent, se rappellent quand on était petit. Hein, je me rappelle très bien, on allait voir ces dessins animés de Walt Disney qui étaient une parenthèse d'enchantement pur. À quoi est-ce que ça tient, ça? À la couleur, sans doute, au regard, hein, ces espèces de regards mouillé de tous les personnages, à l'humanité intense qu'il sait conférer à la manière un peu de La Fontaine à des animaux. Bref, il y a chez Walt Disney une sorte d'idéal qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait floresse, qui a fleuri dans tous les domaines. Ça a donné bien sûr des grands films d'animation, mais les films ont donné lieu à toutes sortes de livres, à des parcs d'attractions, nous le disions, à des déguisements, des vêtements, toutes sortes de produits dérivés. C'est un empire colossal, constitué par celui qui quand même était le fils d'un fermier pauvre, il ne faut pas l'oublier. Alors, ce qui est intéressant peut-être, c'est d'évoquer la dimension impériale de la chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard, me semble-t-il, si Walt Disney connaît cet extraordinaire succès au moment même où l'Amérique est en train de se répandre sur le monde et où l'imaginaire américain est en train de devenir dominant. Il y a eu la Première Guerre mondiale et l'entrée des États-Unis en guerre en 1917 a fait basculer cette guerre. Les États-Unis, en fournissant le matériel aux Alliés, sont devenus la première puissance industrielle du monde. Ils se sont installés littéralement dans cette posture dans l'entre-deux-guerres, alors que les deux grands empires anglais et français étaient encore actifs. Et puis, il y a ce basculement de la Seconde Guerre mondiale. Et alors là, avec la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique devient non plus seulement une super, mais même une hyperpuissance. Ça va être le jeu à deux avec l'Union soviétique, les deux modèles. D'un côté, un modèle communiste qui se veut partageur et qui en fait est surtout autoritaire. Et de l'autre, le modèle capitaliste qui est inégalitaire, certes, mais qui se veut libre. Et Walt Disney devient, dans les années 1940-50, il devient en quelque sorte le fer de lance d'un imaginaire hollywoodien qui se répand sur l'ensemble de la planète. Et les trois secrets de Walt Disney pour imposer cet impérialisme-là, c'est de s'adresser aux enfants, bien entendu, c'est de créer des œuvres qui ne sont pas spécifiquement américaines, mais qui s'appuient et qui s'ancrent sur un imaginaire européen. Il ne faut pas oublier que Walt Disney est le plus grand turiféraire de l'imaginaire européen du 19e siècle que l'on puisse trouver. Et la troisième chose, c'est qu'il a su et qu'il a compris qu'on ne pouvait pas s'en tenir au cinéma au sens propre, et que notamment il est devenu un homme de télévision majeur. C'est en cela d'ailleurs qu'il est le concurrent direct contacts de l'autre grand homme de l'impérialisme américain, Orson Welles, bien sûr.
Oui, absolument. Alors, tu parlais d'enchantement tout à l'heure. Je me souviens d'un livre sorti en 1992, un livre écrit par Joe Flower, un consultant américain qui s'intitulait « Disney, les managers du rêve, de Walt Disney à Michael Eisner ». Et en fait, c'est ça, manager du rêve.
Michael Eisner qui était le directeur des parcs, hein,
des
c'est
parcs,
ça.
Oui. Absolument. Et manager du rêve, c'est vraiment tout à fait ça. Du triptyque dont je parlais tout à l'heure, ne pouvait jaillir qu'un véritable enchantement. Tu parlais de magie et d'enchantement. Eh bien, disons, on va en dire deux mots. Pour beaucoup, Walt Disney était un magicien, c'est évident. Malgré sa dureté apparente, parce qu'il en avait une, on le suivait sans trop d'hésitation, notamment pour tout ce qu'il était capable de créer autour de lui, une usine à rêves. De l'inspiration et de l'impact, c'est ce qu'on peut dire de lui. Il était aussi le symbole, comme tu le viens de le dire, de la toute-puissance des États-Unis. Alors, c'est intéressant. Il racontait des histoires. Il les racontait avec passion, car la passion l'animait du matin au soir, et la passion en leadership, c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, on parlerait de storytelling. Alors, pour les initiés, ils sont familiers de cette notion. Pour les autres, il s'agit d'une mise en récit. Alors, si on veut vraiment être très technique, c'est une méthode de communication fondée sur une structure narrative du discours qui s'apparente à celle des contes ou des récits. Et quand on y réfléchit, c'est exactement ce que faisait Walt Disney.
Il faisait des contes.
Il faisait des contes et il racontait des histoires, il nous transportait avec lui. Alors, il y a aussi cette notion très actuelle aujourd'hui d'expérience. Les entreprises veulent faire vivre à leurs clients ce qu'on appelle des expériences, qu'on qualifie souvent d'expériences clients. Eh bien, bien avant l'heure, ce fut exactement le leitmotiv de Walt Disney. Il voulait faire vivre, mais cette fois-ci pas à des clients privés des entreprises, mais à tout le monde, eh bien, quelque chose, des expériences tout à fait magiques, féeriques. L'homme était tout simplement, on peut le dire, en avance sur son temps. Alors, il nous a fait rêver de mille façons, avec tout d'abord des films d'animation incroyables, Blanche-Neige et les Sept Nains, Cendrillon, Dumbo et tellement d'autres, par des personnages qui sont devenus mythiques, emblématiques, Mickey Mouse, Donald Duck, donc, que tu citais tout à l'heure. Puis il nous a fait rêver avec les fameux parcs à thème. À son époque, Disneyland en Californie, Walt Disney World en Floride, c'était des lieux d'enchantement, des lieux qui apportent une expérience, puisqu'on parlait d'expérience, immersive, unique. C'est la magie de l'enfance, mais ça touche aussi, on va dire, l'âme ludique de tout à chacun,
oui,
quel que soit
c'est
notre
universel.
Âge. C'est nous tous, c'est tout le monde. Alors, il y avait une grande part d'enfant en lui, je le cite, il disait « Je veux que Disneyland soit le plus merveilleux endroit de la Terre et qu'un train en fasse le tour. » Car on ne l'a pas encore dit, mais il avait une véritable passion pour les trains. Alors, il va construire d'ailleurs lui-même un immense, une miniature, mais en fait, c'est un immense train miniature, on va dire, dans son jardin, qu'il avait appelé le Carolwood Pacific Railroad.
Voit d'ailleurs dans l'émission de télévision qu'il présentait, qu'il présentait souvent à côté de ce train.
Absolument,
miniature.
C'est exactement ça. Alors, il va laisser derrière lui un héritage complètement fort en symbole, hein, une trace indélébile dans la culture populaire américaine, mais aussi dans la culture populaire, comme tu le disais, du monde entier.
Dans les années 1940, dans l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or d'Hollywood, dont on est en train souvent, par certains aspects, de découvrir qu'il s'agissait surtout d'un âge de plomb, mais je ferme très vite cette parenthèse. Dans cet âge d'or d'Hollywood, il y a deux grands gourous. Évidemment, Walt Disney qui est au sommet. Il faudrait parler aussi de tous les patrons des majors, hein, de toutes ces compagnies, Zanuck et les autres, bien sûr, et Monsieur Meyer. Mais celui qui pourrait d'une certaine manière faire concurrence à Walt Disney et qui en est un peu le négatif en termes photographiques, c'est Orson Welles. Pourquoi le négatif? Parce que là où Walt Disney vend du rêve, vend de la féerie, vend du positif, il faut que tout soit positif, ces films d'animation regorgent de positivité, eh bien, au contraire, on peut dire d'Orson Welles qu'il a fait toute sa carrière sur le négatif, sur l'ombre, sur la critique, sur l'acide. Comment ces deux hommes peuvent-ils se rencontrer? Ça paraît fou, ça, Gérald.
C'était un peu des opposés, hein, mais on peut dire que c'était quand même deux génies créatifs qui poursuivaient, en fait, le même objectif, dépasser les frontières, ce que j'appellerais les frontières artistiques et industrielles de leur temps. On va revenir en conclusion, je reviendrai en conclusion sur la partie, on va dire, technique, technologique, mm-hmm. qui a été très importante pour Walt Disney. Mais que dire d'Orson Welles ? Alors, sur le plan de l'influence ou du leadership, et sans revenir sur son génie créatif, qui nous vaudra d'ailleurs Citizen Kane, nous le savons tous, c'est un homme qui a une carrière totalement éclectique, qui était doté d'une éloquence et d'un charisme indéniable. Tout le monde en parle. Alors, il veut aussi avoir une forme d'indépendance artistique, ce qui va lui valoir beaucoup de démêler, on va dire, avec les studios de cinéma et puis quelques soucis financiers. Sa personnalité est totalement magnétique et il a une voix profonde qui a un véritable impact sur les autres. Je le cite parce que c'est important pour comprendre la suite. Il y a un exemple très typique, c'est cette adaptation du roman La Guerre des Mondes.
Bien sûr.
Qu'il va donner à la radio.
Et ça nous concerne parce que c'est une émission de radio. Hein.
C'est une émission de radio. Il va la donner en 1938, donc juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la panique. C'est la panique parce qu'il l'incarne tellement que
oui,
tout
il
le
annonce
monde
que les extraterrestres ont débarqué, mais il le dit avec tellement de sérieux et tellement de conviction que des centaines de milliers de personnes vont s'affoler.
Tout le monde y croit. Oui. Tout le monde y croit. Il y a une forme de gravité chez lui que tu as souligné, et c'est tout à fait vrai. Alors il avait parfois de réelles difficultés à collaborer avec les autres en raison notamment de son exigence extrême comme Walt Disney. Alors comment se sont-ils rencontrés?
Voilà.
On y arrive. Orson Welles va tomber sous le charme d'une des créations de Saint-Exupéry, la plus connue bien sûr, Le Petit Prince.
Saint-Exupéry qui s'est exilé pendant la guerre en Amérique et qui passe ses loisirs forcés d'exilé à écrire Le Petit Prince.
Absolument. Et Orson Welles veut être le premier à l'adapter. Et pour ça, bien, il veut alterner des prises de vue réelles et des tableaux mis en mouvement, comme on disait à l'époque. Alors ces derniers avaient une vocation, celle de pallier les limites justement techniques de l'époque qui permettre de représenter les sauts de planète en planète, hein, si on se souvient du Petit Prince. C'était très important. Alors, à cette fin, il a besoin d'un partenaire rompu à l'exercice de l'animation, et évidemment, eh bien, il se tourne naturellement vers Walt Disney. Ce qui, pour Orson Welles, n'était pas évident, parce qu'il avait l'habitude de qualifier Walt Disney de néo-fasciste de la Sunbelt. C'est dire qu'il n'avait pas forcément une très très bonne image de lui. Alors, la rencontre en question va se dérouler à Burbank, le siège de Disney, mais elle tourne très court. Elle tourne très court, pourquoi ? Ben parce que Walt Disney met fin assez rapidement à l'entretien. Il prétexte un coup de téléphone à passer. En fait, on a assisté pendant quelques instants à un duel. Enfin, on a assisté. Certains ont assisté à un duel d'ego au sommet. Alors, il aurait dit à Jack Lehter, qu'il était l'organisateur du fameux rendez-vous, il n'y a pas de place ici pour deux génies dans un même bureau.
Qui a dit ça des deux ?
C'est Walt Disney qui disait ça en parlant d'Orson Welles. Alors, elle rend bien compte de la tension de ce rendez-vous et surtout de ce qui malheureusement fait échouer certains projets, le narcissisme des leaders. Alors, ce film, ben, il ne verra jamais le jour, et on peut dire presque malheureusement, parce que ça aurait donné quelque chose d'exceptionnel.
On imagine ce qu'aurait été l'adaptation du Petit Prince par le duo Walt Disney-Orson Welles.
Énorme. Mais c'est du même tonneau que le Napoléon de Stanley Kubrick ou le Superman de Tim Burton qui n'ont pas, vu le jour. Et on restera sur notre fin.
Peut-être qu'en fait, cette rencontre s'effectuait trop par le petit bout, si je puis dire. Orson Welles, à travers l'œuvre de Saint-Exupéry, se tournait pour une fois vers la positivité, vers le monde de l'enfance et du rêve. Et c'est en cela qu'il pouvait s'approcher de Walt Disney. Mais encore une fois, ce monde-là était très éloigné du sien. Quant à Walt Disney...
Presque opposé.
Quant à Walt Disney, l'année précédente, il venait de donner Fantasia, qui est de loin son film le plus intellectuel, le plus complexe, le plus onirique d'ailleurs.
Le plus riche.
Et le plus riche sur un plan... imagié, et on pourrait même dire sur le plan de l'imaginaire. Et donc, Walt Disney s'approchait avec Fantasia et avec cette ode à la musique classique, il s'approchait de l'univers d'Orson Welles. Donc, d'un côté, Orson Welles, à travers Le Petit Prince, s'approche de l'univers de Disney, de l'autre, Disney, à travers Fantasia, s'approche de l'univers de Welles. Mais c'est pas parce que les deux se rapprochent qu'ils sont capables de travailler ensemble. Et effectivement, ces deux gigantesques égaux ne pouvaient pas se situer dans la même pièce. Est-ce que d'ailleurs, l'ego... Pour un grand leader, puisque on a vu par le passé très souvent que c'est ce qui motive, c'est ce qui agit à travers le leader, est-ce que cet ego est un empêchement pour travailler avec d'autres leaders? Il ne peut pas y avoir deux leaders dans la même pièce. Madame, c'est trop d'un, disait Victor Hugo.
Je pense que tous les cas sont possibles. Je pense qu'à certains moments dans l'histoire, on a plein d'exemples, des personnes arrivent à se dire j'ai quelqu'un de brillant en face de moi, mais cette complétude entre nous va permettre de créer quelque chose d'extraordinaire. Et puis parfois, ils n'y arrivent pas. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en préparant cet épisode, là, je me suis dit effectivement que des grands génies peuvent vraiment passer l'un à côté de l'autre sans finalement se rencontrer. Et passer à côté de chefs-d'œuvre. Mais c'est assez marrant, c'est assez amusant, parce que cette confrontation qu'on peut qualifier entre deux adultes, ben peut-être qu'elle n'aurait pas surpris le petit prince.
Ah non, je pense que le petit prince aurait gentiment haussé ses petites épaules. C'est évident que ces deux monstres-là ne pouvaient que s'entre-déchirer, et c'est sans doute une forme de sagesse de la part de Walt Disney d'avoir mis un terme à un entretien qui, de toute façon, n'aurait pu déboucher que sur de multiples colères.
Oui, je pense qu'il l'a compris qu'en fait, ça ne pourrait pas aller parce que, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, Orson Welles était très exigeant, Walt Disney aussi, et je pense qu'il a compris que les compromis seraient compliqués à trouver.
Alors il y a, c'est vrai que Orson Welles, par la suite, dégoûté un peu de Walt Disney, le traité de néofasciste de la Sun Belt, mais il n'est pas le seul. Il y a eu beaucoup d'accusations qui ont essayé de noircir l'image de Walt Disney. On disait qu'il avait avec ses employés une attitude totalement tyrannique pour ceux qui étaient dans son entourage immédiat et paternaliste pour ceux qu'il ne connaissait pas mais qui travaillaient sous son égide. Et peut-être vous rappelez-vous en 2014 cette sortie très médiatisée aux Oscars, cette sortie de l'actrice Meryl Streep qui a carrément dit en public que Walt Disney était raciste, misogyne et antisémite, a-t-elle dit. Bon, ça a fait à l'époque un scandale majeur. Vous imaginez bien que la firme gigantesque qu'est la Disney Corporation ne pouvait pas laisser passer une chose pareille. Et on s'est beaucoup penché sur la vérité. Il se trouve que la petite nièce de Walt Disney, qui est en quelque sorte un peu l'héritière non pas financière mais morale du personnage, a dit que ce qu'avait dénoncé Meryl Streep était parfaitement juste et parfaitement vrai. Donc, ça n'a pas arrangé les choses. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, sur un plan politique, Walt Disney était proche du patron du FBI, de Edgar Hoover, ça c'est incontestable.
Très proche, c'est démontré.
Certains ont même dit qu'il travaillait carrément pour lui, c'est toujours très difficile de savoir jusqu'où on travaille pour une officine de ce genre. Mais bon, dans les années 30 et 40, c'est vrai que Disney a connu un certain nombre de personnalités pro-nazies. Faut pas oublier qu'on était avant la Seconde Guerre mondiale, bien entendu avant la solution finale, hein, et que à l'époque le régime d'Hitler était surtout et d'abord un régime fasciste, un régime ultra-autoritaire qui pouvait séduire un certain nombre d'ultra-conservateurs américains. C'est vrai que Walt Disney, de ce point de vue-là, fait partie de milieux qu'on doit pouvoir considérer comme peut-être pas antisémites, le mot est un peu fort, mais en tout cas pas philosémites. Je pense à Lindbergh, par exemple, le grand aviateur Lindbergh, qui était dans le même registre. On reproche notamment à Disney d'avoir reçu Leni Riefenstahl dans ses studios. Leni Riefenstahl, qui était la cinéaste préférée d'Hitler et qui avait fait les films sur les Jeux Olympiques de 1936. Bon, en même temps, quand une personnalité de cette envergure venait visiter des studios, est un petit peu normal, je crois, que le patron des studios les lui fasse visiter. Je pense pas qu'il faille tirer des conclusions de cela. Mais c'est vrai quand même que la visite de Leni Riefenstahl avait eu lieu après la nuit de cristal, quand même, en 38. C'est-à-dire qu'on savait exactement à quoi s'en tenir sur l'idéologie profonde du régime nazi. Non. La vérité, c'est que tout ça, et d'ailleurs, par la suite, Disney a été inquiété par McCarthy, hein, au moment de la grande commission sur les activités anti-américaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agissait peut-être de la part du patron du FBI, Hoover, d'un moyen de dédouaner son ami Walt Disney. Toujours est-il qu'il a été inquiété par le McCarthyisme. En 1941, il y a eu cette fameuse grève dont tu as parlé tout à l'heure. Grève qui était menée par un leader syndicaliste très important de l'époque qui se trouvait être juif, que Walt Disney a vécu cette grève de ses studios comme une attaque personnelle et que dès qu'on l'attaquait personnellement, dès que on le trahissait à ses yeux, il voyait rouge, il était extrêmement violent. Et donc, c'est dans ce cadre-là, sans doute, qu'il en est venu à des insultes de caractère antisémite contre ce syndicaliste précisément. On a peut-être un peu vite généralisé. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il ne faudrait pas prendre Walt Disney pour un des personnages de ces dessins animés. Nous l'avons dit, je crois, et suffisamment dit, il était un personnage égotique, extrêmement dominateur, sans doute un peu tyrannique, et ce n'était pas le bon oncle Walt qu'il voulait donner l'image. Voilà. Peut-être voulait-il lui ressembler d'autant plus qu'il ne l'était pas, d'ailleurs.
Ouais, et en fait, comme on l'a dit bien souvent, ben les leaders ont deux facettes, parfois une facette noire et parfois des sombres. Voilà, c'est rare de trouver une personne, un leader qui puisse échapper à cette règle. Alors, je voudrais terminer quand même sur cette notion de l'homme du progrès, parce que Walt Disney croyait à l'apport de la technologie, à l'innovation et à ses possibilités. Alors, il laissait libre cours à son imagination quelques exemples marquants. Alors, il est le premier à introduire des personnages vivants dans des dessins animés. Alors, ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un exploit. Il va produire les Silly Symphonies dont tu parlais tout à l'heure, avec le tout nouveau procédé Technicolor, qui permet d'utiliser tout un spectre de l'arc-en-ciel, transformant ainsi toutes les productions en un monde coloré. Il utilise une caméra multiplane pour la première fois pour donner un effet de profondeur au dessin animé. Et puis, il va utiliser aussi le système stéréophonique Fantasound qui a été développé pour le coup par un ingénieur et un mixeur des studios Disney, c'est-à-dire de la maison même, pour donner le sentiment d'être comme dans une salle de concert.
De concert, c'était tout l'intérêt du film Fantasia. Ça.
Absolument. Alors, les exemples pourraient se multiplier. En réalité, Walt Disney veut le meilleur et cherche toujours l'excellence. Du coup, il ne lésine pas sur les moyens. Ce qui va pas beaucoup plaire à son frère qui lui est en charge des finances. Alors, mais pour Walt Disney, pas question de freiner. Les leaders ont toujours le pied sur l'accélérateur. Il avance en recherche permanente d'amélioration pour tout ce qui peut se faire et tout ce qui peut faire la différence, l'image, la couleur, la profondeur de champ, la lumière. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Il va investir dans un centre de formation, le California Institute of the Arts, le CalArts, qui va lui permettre de former les compétences artistiques dont il a besoin. C'est pas rien parce que c'est un des premiers à avoir fait ça. Finalement, il a formé ce dont il avait vraiment besoin. Puis je voudrais citer le projet Epcot. C'est la cité prototype expérimentale.
Ça, c'est en Floride.
C'est en Floride, car là aussi, Walt Disney va faire montre d'une très grande innovation et d'une très grande créativité. C'était un peu la ville idéalisée qui lui était chère, parce qu'il voulait apporter quelque chose et changer la donne. On retrouve cette notion.
C'était son projet utopique de ville du futur.
Ville du futur, c'est le Magic Kingdom, le royaume magique. Alors, dans l'épisode que nous avions consacré à Steve Jobs, on aurait pu noter des similitudes entre ce dernier et Walt Disney, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a un sens inné pour l'entrepreneuriat, le goût du risque et de l'aventure. Ils ont tous les deux une passion dévorante pour la nouveauté, une créativité sans limite, on l'avait vu déjà avec Steve Jobs, une vision exceptionnelle, et puis parfois des caractères un peu compliqués, on vient de le dire, mais ils se rejoignaient entre nombreux points. Alors, quel leader, Franck, ce Walt Disney ? Certaines personnes sont réellement capables de changer la donne à jamais. Walt Disney avait indiscutablement une baguette magique en main.
Eh bien, écoute, je crois qu'on ne pouvait pas commencer cette saison mieux que par un leader magique et contesté, tout ce qu'il nous fallait. Il y en a quelques autres qui nous attendent.
Qui arrivent.
Radio Classique.